enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Semer et moissonner. Qui désire être béni dans ce lieu? Levez voir la main. Ceux qui ne lèvent pas la main, tout le monde veut être béni. Papa, tu veux être béni? Bon, je sais que tu as déjà été richement béni en m'ayant comme fils, mais... Non, en toute humilité. Hein. Unilatéralement et unanimement, nous désirons la bénédiction de Dieu. Et j'aimerais vous dire une bonne nouvelle. Dieu ne veut rien d'autre que nous bénir. Ça, c'est son objectif, c'est son but, c'est fixé, c'est sa volonté. Cependant, dans la parole de Dieu sont établis des principes de bénédiction. Et vous et moi, nous ne pouvons pas outrepasser ces principes, car à ces principes-là sont également liées la bénédiction de Dieu. J'aimerais ce matin voir deux principes. Le premier principe, c'est honorer Dieu. Le second principe, c'est donner et vous recevrez, puis nous conclurons ensemble. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année, cette année 2006, et les uns et les autres, vous avez certainement eh bien, fait des projets, pris des bonnes résolutions, résolutions qui souvent, en fin d'année, n'ont pas été respectées. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais très souvent, en faisant le bilan en fin d'année, on se dit, c'était beau ce que j'ai décidé. Dommage que je n'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé. Et souvent, non pas parce que je ne pouvais pas atteindre l'objectif, mais parce que je ne me suis pas appliqué à avoir la rigueur nécessaire pour l'atteindre. Combien ont décidé l'année dernière de lire chaque jour leur Bible? Combien en cours de route? Toi, ma grande fille, ben c'est très bien. Combien en cours de route? Eh bien, on fait le bilan qu'ils ont abandonné au bout de 3 mois. C'est souvent par manque de rigueur et d'engagement. Ce matin, j'aimerais vous partager ces deux principes, mais non pas comme une technique ou comme un message en 5 points, comment obtenir magiquement la bénédiction en suivant le point 1, 2, 3, 4 et 5. Je crois que la bénédiction découle d'une relation personnelle avec Dieu dont la seule motivation acceptable, eh bien, c'est l'amour que nous avons pour lui. Est-ce que parce que nous sommes chrétiens, nous sommes condamnés à être bénis? C'est une question qui se pose. Et je m'adresse également là aux téléspectateurs. Est-ce que vous êtes obligatoirement condamné à la bénédiction parce que vous êtes croyant? Si vous ne l'êtes pas, évidemment, vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Mais vous pouvez recevoir celui qui vous bénira. Saül avait oublié un principe. Il avait oublié qu'honorer Dieu consiste à lui obéir par amour. Saül avait oublié que le fait que Dieu le choisisse là au milieu du peuple, que Dieu permette que Samuel le prophète l'oigne d'huile pour un service aussi honorable que la royauté, que le fait qu'il soit rempli de l'Esprit et qu'il prophétise ne l'épargnait pas d'honorer Dieu. Parce qu'il a oublié ces principes-là, il connaîtra des déboires. 1 Samuel chapitre 15, verset 10, nous lisons ensemble. 1 Samuel 15, 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Verset 15. Saül répondit, verset 26. Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as été rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Le fait, un jour, d'être né de nouveau, le fait de vous être engagé dans les eaux du baptême, ne signifie pas que vous êtes béni automatiquement. La bénédiction est liée également à l'honneur que nous allons rendre à Dieu. Honorer Dieu est attaché à l'obéissance. Élie, le sacrificateur, l'avait lui aussi oublié. Ses fils déshonoraient l'Éternel. À l'entrée de la tente d'assignation, il nous est dit qu'il couchait avec les femmes. Résultat, un homme destiné à être béni, lui et les générations qui suivront, perd ce que Dieu lui avait promis. 1 Samuel 2:30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. La seule motivation acceptable par Dieu, dites-le-vous toujours, et je me le dis régulièrement, la seule également qui nous donne la force d'obéir et de l'honorer, c'est de l'aimer d'abord. Souvenez-vous d'abord que la force, bien sûr, nous vient de l'esprit, mais l'esprit ne devient que fort là où un homme et une femme aiment Dieu par-dessus tout et avant tout. Jésus dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ensuite, et ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, c'est l'amour que nous allons avoir pour lui qui va nous permettre alors de l'honorer en obéissant à ce qu'il nous dit. Lorsque c'est l'amour qui te motive, tu obéis non plus par servitude, parce qu'il faut, parce que la parole de Dieu est devenue pour toi une série de lois qui s'alignent les unes derrière les autres et que tu vas faire très souvent contrarié, frustré, par obligation. Non, tu vas le faire parce que tu aimes le Seigneur. Quand Dominique cuisine chaque jour, elle le fait parce qu'elle m'aime. Bon, ces derniers temps, il y a souvent des raviolis. Je le reprends, chérie. C'est l'amour qui l'amène à chaque jour et vient nous préparer les meilleurs, nous accueillir à la maison. Lorsqu'on aime, Jésus dira, Jean 14, celui qui m'aime, qui aime Jésus ici? Levez voir la main. Waouh! Seigneur, réjouis-toi! Écoutez, celui qui m'aime obéira à ce que je dis. J'ai donc presque 2000 personnes obéissantes ici. Les alléluia sont de moins en moins forts. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, mon Père et moi, nous habiterons chez lui. Il suffit pas de dire « j'aime Dieu », l'amour à un moment donné doit être démonstratif. L'amour se traduit concrètement. Pourquoi tu fais comme ça? Voulez-vous voir une femme comblée? Mettez les caméras. L'amour à un moment donné est démonstratif. Démonstratif, je vais le démontrer. Quand un homme aime sa femme, son plaisir à lui, c'est de faire plaisir à sa femme. Et c'est l'amour qui le motive. Vous savez, il y a deux manières d'acheter des fleurs. L'une, c'est parce que vous l'aimez, l'autre, c'est pas pour vous, pour ne pas vous faire engueuler en rentrant. C'est pas la même motivation. Il y en a, ils achètent des fleurs pour que surtout, maman, reste tranquille. D'autres, en voyant le bouquet, ils disent « Mais elle n'aurait pas mérité le bouquet, mais le magasin de fleurs. » C'est toi, Samuel, ça ? Je change, hein ? C'est 2006. Ne dit-on pas, quand on aime, on ne calcule pas ? Vous êtes d'accord avec cela ? Quand on aime, on ne calcule pas. L'apôtre Paul nous fera un descriptif de l'amour extraordinaire dans 1 Corinthiens 13. Et regardez, il termine au verset 13 en disant « Ces trois choses donc demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Alors que nous sommes au début de cette année, je voudrais que vous puissiez remettre le compteur à zéro. Suivez-vous le Seigneur uniquement par amour. Êtes-vous motivé à lui obéir à cause de l'amour que vous nourrissez pour lui? Quand on aime, on ne calcule pas, et c'est là que le bât blesse. Je me rends compte que très souvent, et je commence par moi, je calcule. Si je fais ça, qu'est-ce que ça va me rapporter? Si je donne, qu'est-ce que je vais recevoir en retour? C'est un jour Daniel, mon frère, qui est rentré à la maison après un culte. Alors, c'était lui, ça aurait très bien pu être moi. Il dit, ça marche pas. Non, ça marche pas. Alors mes parents lui disent, qu'est-ce qui marche pas? Eh bien, il est dit que quand on donne, il nous rend au centuple. J'ai mis 1 franc dans le tronc, il n'y a rien qui est sorti. On calcule. Et notre nature est une nature calculatrice, même dans le couple. Très souvent, on fait quelque chose pour l'autre, mais sans le dire vraiment, c'est pour moissonner quelque chose d'autre. L'amour doit se donner sans attendre en retour le reproche que Dieu fait à l'église d'Éphèse. Écoutez, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. C'est à une église que Dieu parle. Conséquence d'un premier amour abandonné, abandon des premières œuvres. Pourriez-vous ce matin, en ce début d'année, revenir pour certains quelques semaines en arrière, pour d'autres quelques mois, pour d'autres quelques années, et vous rappeler les temps où vous étiez bouillant pour Jésus? Les temps où vous ne calculiez pas pour le Seigneur. Que ce soit le temps que vous lui consacriez dans sa maison, le temps que vous lui donniez chez vous, dans la prière et la relation personnelle, que ce soit l'investissement que vous faisiez en aidant dans le travail, en vous investissant parmi les enfants, rien n'était de trop. On pouvait tout vous demander lorsqu'il s'agissait de Jésus. Mais ce matin, en êtes-vous encore au même point ? Êtes-vous encore bouillant pour Jésus? Avez-vous encore ce premier amour, cet amour frais? Ah non, vous me dites, si tu avais fait les expériences que j'ai faites, si tu avais été déçu comme j'ai été déçu. Alors j'aimerais vous dire, si c'est sur ça que cela doit se baser, ça fait longtemps que Jésus aurait pu remonter au ciel sans s'occuper de nous, parce qu'on l'a fichtrement, profondément, déçu plus d'une fois. Ah oui, mais tu sais, au début, je me donnais, je faisais, je travaillais, mais j'ai l'impression d'avoir passé pour un pigeon. Bien, moi, je vais vous dire une chose. Même si je devais être un pigeon, je veux bien être le pigeon du Seigneur. Ça vaut la peine. Lorsque je considère la vie de mon père, lorsque je vois le nombre de fois où il s'est fait rouler, des gens qui l'ont trompé, qui lui ont parfois menti, qui l'ont trahi et tout ce que vous voudrez. Je l'ai toujours vu recommencer et continuer avec la même flamme comme si jamais rien ne s'était passé. Bien-aimés, où en sommes-nous ce matin ? Si nous l'honorons, alors nos prières sont efficaces. Nous savons, dit Jean 9, 31, que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Je pourrais passer tout le message ce matin sur le fait d'aimer le Seigneur, sur le fait de nous interroger sur l'expression de l'amour passant par l'obéissance et la motivation de notre obéissance. Mais j'aimerais vous donner un deuxième principe incontournable. Dans Luc chapitre 6, verset 38, et ce sera là mon deuxième principe, si le premier est d'honorer Dieu, le second, donnez aux autres, et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour les autres. Deuxième principe incontournable. Dieu, et ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui parle. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour les autres. En d'autres mots, n'espère pas plus que ce que tu sèmes. C'est une règle juste. Elle est également, en accord avec la nature que Dieu a créée. Vous ne moissonnez jamais plus que ce que vous n'avez semé et jamais autre chose que vous avez semé. Si vous semez du blé, vous ne moissonnerez pas des salades. Si vous semez des épines, vous ne moissonnerez pas des tomates. Vous moissonnerez toujours selon la nature du grain que vous avez mis en terre. Et jamais plus que ce que vous avez décidé d'investir. Le premier principe consiste à honorer Dieu en lui obéissant, motivé par l'amour que nous avons pour lui. Mais le second principe, permettez-moi de vous le dire et d'insister, est lié, fortement lié au premier, car vous ne donnerez jamais plus que vous n'aimez. Jamais. Nous donnerons toujours à la mesure de l'amour que nous avons. Alors, ce matin, quelle mesure employez-vous ? Permettez-moi d'être un peu plus expressif et d'employer une image. Est-ce que vous êtes d'accord avec ? Dominique, est-ce que tu voudrais bien, ma chère chérie, chercher ce qu'il y a dans la cuisine, sur la table, ma bien-aimée gazelle pleine de grâce ? Voilà comment je lui parle d'habitude. Oui, de la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré. J'ai appris dans la vie qu'il y a différentes mesures que l'on peut employer. Merci. Regardez, je vais commencer peut-être par les mesures que connaissent Ah, tu m'as dit de pas prendre celle-là parce qu'elle a des trous, hein. Ah, attends, je vais la cacher. La première mesure que connaissent tous les Alsaciens. Schnapsklé, ça là, hein. Même la bougie en tombe par terre. La deuxième, c'est des Alsaciens déjà bien rodés. Et puis, il y a des mesures un peu plus grandes, puis il y a des mesures encore un peu plus grandes, Puis vous voyez, on peut continuer comme ça. D'ailleurs, on va le faire. Vous avez cette mesure-là. Vous avez aussi cette mesure-là. Et puis vous avez cette mesure-là. Et puis j'en ai une dernière. Joseph, tu veux bien prendre la main du frère qui est chez toi, là? Oui, oui. Non, t'assieds pas, restez debout. Emmenez-moi cette mesure-là. C'est pas lourd. Voilà. Ça, c'est aussi une mesure. Voilà, c'est bon, là. Vous avez vu ? De la mesure. Merci, mes frères. Dont vous, dont je, mesure, il nous sera mesuré. Je peux passer ma vie à mesurer avec ça. Seigneur, je t'aime. Le dimanche, je suis à l'église. Je passe ma vie avec un verre à schnapps. Jésus établit des principes dans l'emploi des mesures. Regardez, Luc 6, versets 37 à 38. Pourquoi le Seigneur dit cela? Souvent le Seigneur aimait employer des images qui étaient courantes. Lorsque par exemple quelqu'un manquait de grains à semer, il pouvait aller chez son voisin. Et son voisin avait une mesure de capacité. Il prenait du grain pour lui en donner, mais si le voisin avait les dispositions de cœur desquelles parle Jésus, alors la mesure de capacité, il la secouait pour bien tasser le grain. Et quand le grain était bien tassé, il retournait encore une fois dedans. Et puis là, il y mettait une mesure, dit l'Écriture, débordante. Ensuite, il le versait dans le pan du manteau de son voisin qui repartait ensemencer son champ, béni par la générosité de celui qui lui avait donné. Jésus dit dans Luc 6, versets 37 à 38, « Ne portez de jugement contre personne, et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres, et Dieu vous pardonnera. Donnez aux autres, et Dieu vous donnera. » On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour les autres. Ne jugez pas et Dieu ne vous jugera pas. Est-ce à dire que nous ne pouvons rien dire? Non, non, l'apôtre Paul dit que l'homme spirituel juge de tout. Mais combien de jugements qui sont des jugements iniques, des jugements motivés uniquement par la jalousie, par la rancœur. Un frère vient, un frère fait une faute. Au lieu de voir le peuple de Dieu l'aider à se relever, on le juge. Et on le juge souvent sévèrement. Lorsqu'il s'agit de juger, la mesure qu'on prend, c'est rarement celle-là. En règle générale, la mesure que nous utilisons quand il s'agit de juger, c'est celle-là. Voire, quand ça suffit pas, suivant qui c'est celle-là de mesure. Et on va y mettre le paquet. Ah, maintenant, eh bien maintenant, frère, il faut que tu saches que le restant de tes jours, tu resteras sous le joug de ton péché. Nous jugeons avec sévérité. Mais nous oublions que la mesure que nous employons nous sera appliquée. Ne condamnez pas, dit Jésus, afin que vous ne soyez pas condamnés. Après le jugement, qu'est-ce qui suit ? Automatiquement, le jugement précède toujours la condamnation. Et plus le jugement était sévère, plus la condamnation est sévère. Si vous jugez avec cette mesure-là, il est évident que votre condamnation sera en proportion de la mesure que vous avez employée pour juger. Mais encore une fois, il me semble que nous oublions que la même mesure nous sera appliquée. Parce que voyez-vous, lorsque David avait péché avec Bathsheba, il avait oublié ce principe-là. David se promène sur sa terrasse le soir, il voit une femme qui se baigne, elle était, dit l'Écriture, très belle, il la convoite, la fait venir au palais, couche avec elle, et maintenant commence le cercle infernal du péché. Par une série de manigances, il va essayer de se débarrasser du mari. Il va y avoir mensonge, il va y avoir manipulation et à la fin, meurtre, puis dissimulation. Jusqu'au jour où le prophète arrive chez David. Écoutez bien ce qui se passe. 2 Samuel 12. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. De qui est-il parlé ? Le prophète Nathan lui dit, David, il y a là un homme qui avait beaucoup de brebis, qui avait énormément de bétail. Dans la même ville, un pauvre avec une seule brebis. Le riche a reçu du monde à manger. Que fit-il ? Au lieu de prendre de son bétail, il alla, prit la seule brebis du pauvre pour l'offrir à son visiteur. Réaction de David. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit, Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hessien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et tu l'as tuée par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hessien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Qu'est-ce qu'il a dû regretter, David ? Qu'est-ce qu'il a dû regretter de juger l'homme que lui présentait Nathan ? Qu'est-ce qu'il a dû regretter de le condamner avec cette mesure-là ? Je me mets à la place de David et je me dis, mais si seulement j'avais employé que cette mesure. Parce que quand il s'agit de juger, il vaudrait mieux qu'on emploie celle-là, voire aucune. David aurait pu dire, en entendant Nathan, « Nathan, ce que cet homme a fait est terrible !» Mais Nathan, viens, mettons-nous à genoux pour cet homme, prions Dieu qu'il lui pardonne. Il n'a pas fait ça. Il se met en colère. Que cet homme soit tué et que l'on rende 4 fois ce qu'il a pris. Dieu va employer pour lui la mesure qu'il a employée. Nous sommes légers dans notre manière de parler, de juger et de condamner. Mais nous oublions qu'un jour, les mêmes mesures nous seront appliquées. Pardonnez, nous est-il dit ici, il vous sera pardonné. Mes amis, combien de fois et quelles mesures utilisons-nous pour le pardon ? Oh, quand nous faisons une faute, quand il s'agit de faire ce que Paul dit, que chacun donc s'éprouve lui-même, quand il s'agit de nous, alors là, ah, Seigneur, tu sais, enfin, ouais, Oh, mais non, je n'ai pas la trêve, je n'ai pas la trêve. Non, quand il s'agit de nous juger nous-mêmes, c'est fou ce qu'on est généreux à notre propre égard. C'est pas vrai. Quand c'est l'autre, et celle-là est encore petite, par rapport à ce que j'ai déjà pu entendre. Mon frère, ma sœur, ce matin, un troisième principe, c'est pardonner, il vous sera pardonné. Encore une fois, un emploi de mesure. Matthieu 18, verset 23-35, vous connaissez l'histoire de ce roi à qui un homme devait 10 000 talents. Vous savez combien c'est 10 000 talents ? Alors, j'ai trouvé différents chiffres. Mais entre autres, 10 000 talents représenteraient 60 millions de francs or. Je ne sais pas ce que ça vaut en je ne sais pas exactement ce que vaut le franc or en euros. Je ne sais pas si c'est la même. Gérard, mon frère Gérard Meyer, tu es là? Je ne sais pas ce que ça vaut en franc or. Alors j'ai simplement fait le calcul comme si c'était les francs que je connaissais il y a quelques années de cela. 60 millions de francs or représentent, en euros, si je le traduis comme cela, 9 153 318 euros. De quoi faire trois fois le bâtiment que nous voulons faire. 100 deniers représentent 15,25 euros. La mesure est de 1 à 600 000. La grâce qui a été faite au premier est 600 000 fois plus importante que celle qui a été faite au second. Cependant, malgré cela, il le frappe à grâce. Et le reproche que Dieu fera à cet homme, qui au lieu de pardonner comme il lui a été pardonné, de surcroît avec une mesure difficilement mesurable, eh bien il va souhaiter à son prochain le mal, va le faire enfermer pour qu'il le rembourse. La Bible nous dit, quand le roi entendit cela, il le fit venir. Il le fit enfermer et il dut, eh bien, passer par la géole jusqu'à ce qu'il eût remboursé son bien. D'ailleurs, il me semble qu'il est encore aujourd'hui en train de travailler. Le reproche que Jésus fait, c'est qu'il n'a pas employé la mesure qui avait été employée pour lui. Et frères et sœurs, en ce début d'année, j'aimerais vous dire que la mesure que nous emploierons sera employée pour nous un jour. Puisse Dieu nous donner beaucoup plus de compassion, de miséricorde et d'amour divin. Permettez-moi d'arriver au quatrième point et au dernier. Donnez aux autres, il vous sera donné. Il est important, frères, sœurs, que vous réalisiez et que je réalise que lorsque je donne aux autres, c'est au Seigneur que je donne. Écoutez ce qui est dit dans Matthieu. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu? Et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Combien ont été déçus? Déçus parce qu'ils ont aidé, déçus parce qu'ils se sont investis, déçus parce qu'ils ont tout donné. Mais je vais vous dire pourquoi ils ont été déçus. Ils ont été déçus parce qu'ils attendaient en retour tout de la personne qu'ils ont aidée. Ne fais jamais cela, sinon tu n'aideras jamais. Ou tu n'aideras qu'une fois et tu t'arrêteras. Chaque fois que tu aides, aide en voyant Jésus en celui que tu aides. Que lui te le rende ou ne te le rende pas, ce n'est pas l'objectif. D'ailleurs, si on nous le rend, quelle est la différence avec les païens, dira Jésus. Eux aussi savent donner à ceux qui leur rendent. Mon frère, ma sœur, ce matin, apprenons à voir Jésus en celui que nous aidons. Apprenons à voir le Seigneur. C'est pour lui que nous le faisons. Et pour lui seul. Peut-être vous êtes-vous investi dans la surveillance du parking et avez-vous été déçu. Quelqu'un vous a manqué de respect. Vous lui avez dit, s'il vous plaît, ne vous garez pas là. Il vous a envoyé paître, il s'y est mis quand même. Oh, ça arrive souvent, malheureusement, je le regrette. Cependant, quand vous le faites, c'est pour le Seigneur que vous le faites. Quand Jean traduit là-bas, même si parfois le prédicateur Samuel l'énerve à aller aussi vite, il lui pardonne, parce qu'il le fait pour Jésus. Maintenant, au prédicateur aussi, d'avoir compassion de son frère. C'est pour ça que j'ai freiné. Permettez-moi d'aborder un dernier point qui est toujours très délicat. C'est honorer Dieu par nos finances. Ah, alors là, frère, vous étiez sympathique jusqu'à maintenant. Pourquoi tout gâcher? Franchement, on s'entendait bien et maintenant vous gâchez tout, là, à la fin. C'est dommage. D'abord, je veux remercier chacun d'entre vous pour votre fidélité. J'aimerais simplement dire que chaque mois qui passe est pour moi un miracle. Nous honorons les salaires, nous honorons les charges liées à ce bâtiment, aux œuvres missionnaires, l'évangile est répandu, la parole de Dieu est annoncée par tous les canaux possibles, la télévision, la radio, tout ce qui est possible, les traités, les affiches. C'est parce que vous êtes fidèles et je voudrais d'abord vous remercier de tout cœur. Il y a peu de temps de cela, je vous partage quelque chose parce que j'ai été bouleversé et interpellé. Je voyage passablement et dans beaucoup d'endroits et même à la maison, je reçois souvent des nouvelles. Et puis sur les nouvelles, il y a un appel au soutien financier, à des offrandes avec le compte-chèque dessus, etc. Et intérieurement, je me suis dit un jour, mais on me demande tout le temps des nouvelles, on pourrait faire ça aussi. C'est tout le monde le fait et puis finalement, c'est pas faux de le faire. Et nous avons donc fait notre première newsletter l'année dernière. Et dans la newsletter, nous avions mis les comptes bancaires. Et puis est venue la deuxième newsletter. Et moi, je n'avais plus la paix. Cet été passé, j'étais dans les Cévennes, j'ai pris vraiment du temps avec Dieu. Et alors que je prenais du temps avec Dieu, Dieu m'a interpellé. Je lisais entre autres le livre du frère Georges Muller, qui en Angleterre va pourvoir aux besoins de 10 000 orphelins sans jamais demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Et Dieu m'interpelle en me disant, Samuel, n'ai-je pas été fidèle à l'égard de tes pères? Je dis, si. Ne t'ai-je pas été fidèle depuis ces 18 ans? As-tu manqué une fois de quoi que ce soit? L'Église a-t-elle manqué de quoi que ce soit? Je dis, non, Seigneur. Il dit, pourquoi alors cherches-tu à t'appuyer sur le bras de la chair? J'ai dit, mais Seigneur, d'autres le font. Il dit, les autres ne te regarde pas, je les bénis comme cela, mais toi, je ne te permets pas de le faire. Je veux que tu sois dépendant de moi. Je suis rentré des vacances, j'étais bouleversé, je pleurais. Je disais, Seigneur, je te demande pardon. Pardon parce que ce n'était pas forcément calculé, c'était un peu, tiens, tout le monde le fait, on y va. J'ai demandé pardon à l'équipe pastorale. Et nous avons décidé de retirer maintenant tous nos comptes bancaires de la newsletter. La newsletter continue parce que les gens nous la demandent. Mais nous voulons compter que sur Jésus. Et c'est pour ça que je vous dis, chaque mois qui passe, je suis à genoux et je dis, Seigneur, aide-nous à honorer le mois prochain. Et ça fait maintenant combien de temps que tu es à plein temps ? 70, ça fait 36 ans. Que nous pouvons dire, il a toujours été fidèle. Toujours. Toujours. Laissez-moi continuer. Pourquoi avons-nous des problèmes avec l'argent? Je vais vous dire pourquoi. Trop souvent parce que nous considérons que c'est notre propriété et nous oublions que nous n'en sommes que des gestionnaires. La définition de la propriété, droit de disposer ou de jouir d'une chose que l'on possède en propre de la manière la plus absolue. Le gestionnaire est quelqu'un qui va gérer les affaires d'un autre dans l'intérêt de ce dernier. Mon frère, ma sœur, si je pars du principe que ce que j'ai, je le reçois du Seigneur, alors je vais l'investir dans son intérêt à lui. Quelle mesure employons-nous? Celle-ci? 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 Celle-là? Chacun est libre. Chacun est individuel. Chacun a le droit d'agir selon sa conviction. Cependant, le principe établi par Dieu, au travers desquels nous sommes invités à participer, est le suivant. Proverbe 11, 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Jésus, de manière surprenante, va se mettre près d'un tronc et observer les gens qui donnaient. Par ailleurs, il est dit dans Proverbe 3:9, « Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus, donne-lui le meilleur de tes récoltes. » Frères et sœurs, imaginez qu'aujourd'hui, je décide de me mettre près du tronc. Vous allez me dire, t'as pas le droit, t'es pas Jésus. Vous avez vraiment raison. Non, mais qu'est-ce que ça vous ferait quand même? Je suis sûr que certains se diraient, ah, regarde-le comme il est intéressé. Eh bien, voyez-vous, ce matin, j'en parle avec d'abord beaucoup de respect de chacun. J'en parle avec beaucoup de liberté. Parce que le salaire qui est fixé n'est jamais en fonction des rentrées. J'ai toujours la même chose. Avec l'équipe pastorale, il y a des années, nous avons demandé pendant 7 ans de suite à ce que nos salaires soient bloqués. 7 ans. Pendant que d'autres étaient augmentés, nous voulions qu'une chose, c'est que le Seigneur, lui, soit servi le mieux possible. Certains frères qui sont dans le ministère avec moi ont perdu la moitié de leur salaire en venant dans l'église. Et ils ne l'ont toujours pas. Et ils ne l'auront certainement jamais. Pourquoi? Parce que nous, nous voulons investir pour là-haut. Et je rappelle juste une chose. Si j'en parle avec beaucoup de joie, parce que c'est que pour l'œuvre de Dieu. C'est que pour l'œuvre de Dieu. Alors, permettez-moi de revenir à Jésus. Il dit, après qu'il s'assit en face des troncs à offrande du temple, et il regardait comment les gens y déposaient de l'argent. De nombreux riches donnaient beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arriva et mit 2 petites pièces de cuivre d'une valeur de quelques centimes. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a mis dans le tronc plus que tous les autres, car tous les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle possédait. Nous avons reçu au mois de décembre des dons extraordinaires. Nous avons reçu 3 dons pour l'agrandissement qui dépassent tout ce que je pouvais imaginer, ces 3 enveloppes que le trésorier avait voulu me montrer. Et ces 3 enveloppes, sur ces 3 enveloppes, était écrit « Bon anniversaire Jésus ». 3 petites filles ont mis 5 euros dans chaque enveloppe. Ça a été pour moi le don le plus grand cette année. Alors une a mis son prénom, c'est comme ça que j'ai retrouvé la maman. Et sa maman avait dit, mais je lui avais dit, pourquoi tu mets le prénom? Elle dit, mais je mets le prénom sinon il ne sait pas de qui l'a donné. Permettez-moi de terminer, celui qui donne, dit l'Écriture, doit donner avec joie. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Avec simplicité également, gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public pour que tout le monde vous remarque. Sinon, vous ne recevrez pas votre récompense de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu donnes quelque chose aux pauvres, n'attire pas bruyamment l'attention sur toi comme le font les hypocrites dans les synagogues. Ils agissent ainsi pour être loués par les hommes. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais quand ta main droite donne quelque chose à un pauvre, ta main gauche elle-même ne doit pas le savoir. Donnez avec abnégation, c'est-à-dire désintéressement. Vous allez me dire, oh, frère, ça c'est des textes. Oui, il y a des textes de l'Ancien Testament, mais regardez dans 2 Corinthiens. 8, verset 15. Frères, nous désirons que vous sachiez comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Les fidèles y ont été éprouvés par de sérieuses détresses, mais leur joie était si grande qu'ils se sont montrés extrêmement généreux, bien que très pauvres, j'en suis témoin. Ils ont donné selon leurs possibilités et même au-delà, et cela spontanément. David avait lui aussi un principe simple. Je ne vais quand même pas offrir au Seigneur, dans 2 Samuel 24, 24, des sacrifices qui ne me coûte rien. Mesurez, et il vous sera mesuré. Ce n'est pas une technique, c'est une relation de cœur avec Dieu. Qui désire nager dans la bénédiction? Le principe est simple. Voulez-vous vraiment être béni? Vous voulez voir ce que c'est un homme béni? Georges, viens vite m'aider. Si vous voulez être pleinement béni, utilisez souvent cette mesure. C'est bon. Et là, vous nagerez dans la bénédiction. Vous avez déjà essayé de nager là-dedans ? C'est dur. Permettez-moi de terminer simplement par une petite image. C'était dans une église où passait un panier. Puis il y avait là un petit garçon. Il était là et le panier passait dans les rangs. Ici, ça fait 25 ans qu'il n'y a pas de panier qui ont passé. On n'en fera pas passer parce que si Dieu donne pas, alors. Puis quand le panier arrive chez lui, il prend le panier, il le met par terre. Sa maman à côté dit, qu'est-ce que tu fais ? Il se met dedans. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Il dit, Seigneur, c'est tout ce que j'ai à te donner. Que Dieu nous aide. C'est tout ce que j'ai à te donner, ma vie. Fermons nos yeux un instant.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.